Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie, à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable, je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam, et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants.
Surtout s'ils me donnent de l'argent.
Pour rappel, je m'appelle Brice Van Nuffel, je tiens le blog worldwildbrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Bonjour à tous, ici le contrôleur du train. Nous vous rappelons que ce trajet débutera exceptionnellement par une introduction au Bangladesh pour que vous compreniez facilement où vous vous trouviez avant de continuer avec une interview. Merci à vous et bon voyage. Est-ce que vous connaissez le Bangladesh? Est-ce que vous savez ce qu'il y a à voir au Bangladesh quand on voyage sur place? Est-ce que vous savez si les Bangladesh sont gentils? Eh oui, s'il y a bien un pays en Asie dont on ne parle jamais pour le touriste, c'est bien le Bangladesh. Dans l'épisode 3 du podcast, on parlait de Taïwan qui ne recevait aucune attention des Français, mais le Bangladesh c'est encore pire. Généralement, le Bangladesh on parle que des usines textiles et c'est à peu près tout. En fait, le Bangladesh c'est un pays issu de la partition de l'Empire des Indes britanniques, donc pour les plus jeunes, l'ancien nom du Bangladesh c'était le Pakistan oriental, et oui, à l'époque il y avait deux Pakistans aux extrémités de l'Inde. Un à gauche, un à droite. Cependant, en 1971, le Bangladesh a obtenu son indépendance après la troisième guerre indo-pakistanaise des suites de troubles économiques et politiques. Le Bangladesh, en fait, ça se trouve entre l'Inde et la Birmanie et c'est un pays à majorité musulmane, 90% de la population, tandis que les autres 10% sont principalement hindouistes. Et oui, on est juste à côté de l'Inde. Le Bangladesh est surtout connu pour son industrie textile, on le disait, ou pour être le lieu où sont désossés les grands navires. Vous savez, c'est ces reportages sur M6 un peu tard le soir. Mais c'est aussi un pays qui a une densité de population de dingue, puisque la densité de population est de 1251 habitants par kilomètre carré. Vous savez combien c'est en France? Non, toujours pas. C'est 105, 12 fois moins. Donc imaginez-vous, à territoire équivalent, il y a 12 fois plus de personnes au Bangladesh. Le Bangladesh, c'est aussi des fleuves mythiques, puisque le pays est occupé en grande partie par le delta du Gange, qui est le plus grand delta du monde. C'est un endroit particulièrement à risque du point de vue des inondations, mais très fertile grâce aux alluvions. Et oui, le Gange, c'est ce grand fleuve sacré dont on parle souvent pour l'Inde, mais en fait, il se termine au Bangladesh, peu après être rejoint par le Brahmapoutre, qui est aussi un autre fleuve mythique de l'Asie. Donc le Bangladesh, on parle souvent des fleuves. Lorsque ces deux fleuves sont réunis, ils forment le fleuve avec le troisième plus gros débit du monde, d'accord ? Et vous verrez qu'on parle beaucoup des bateaux, on parle beaucoup de l'agriculture pendant ce podcast. Alors là, vous vous demandez, hey, mais on n'est pas sur Wikipédia là, pourquoi il est en train de nous expliquer ce que c'est le Bangladesh ? En fait, pour cet épisode du podcast, je suis rejoint par Étienne. Puisque oui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je connais que 3 personnes qui sont allées plusieurs fois au Bangladesh et Étienne en fait partie. Du coup, je me suis dit que c'était la personne parfaite pour parler du Bangladesh, ce qu'il y avait à y faire, comment c'était de voyager sur place, comment sont les Bangladais, on va parler thé, on va parler de riz, on va parler des rues de Dhaka qui ont l'air assez occupées, et pour moi, c'était la personne parfaite pour vous faire découvrir ce pays. Ah, mais je crois que le train arrive en gare.
Premier arrêt, une introduction à Dhaka, la capitale.
Salut Étienne.
Salut Brice.
Alors, bon retour sur le podcast. Tu es déjà venu pour un épisode précédent sur la photographie en Asie. Aujourd'hui, tu es de retour pour parler du Bangladesh.
Oui, exactement.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Eh ben, je m'appelle Étienne Bosso, je suis photographe basé à Hoi An, dans le centre du Vietnam. Et j'organise des tours photo en Asie pour enseigner la photo. Et je suis également photographe professionnel, donc pour des boulots commercial, quoi, du boulot, du travail, photographie commerciale. Et donc, depuis un an que je suis coincé sans pouvoir voyager, comme tout le monde, j'ai également monté mes cours photo en ligne.
Ok, alors dans le dernier podcast, et si vous voulez retrouver Étienne, c'est sur pixofasia.com, c'est son site avec son agence pour des voyages photo en Asie. Dans le dernier podcast qu'on a fait, on a beaucoup parlé parfois du Bangladesh. Alors à chaque fois, je t'ai coupé en disant « Attends, on va en parler plus tard, on fera un épisode spécial. » Parce que pour moi, le Bangladesh, c'est un pays qui est vraiment très spécial. J'ai jamais eu la chance d'y aller. Et d'ailleurs, c'est très rare, on en rigolait avant, mais c'est très rare de connaître quelqu'un qui est déjà allé au Bangladesh. Je t'avais notamment coupé quand tu voulais parler de la photographie au Bangladesh, des trains au Bangladesh. Ça avait l'air super cool. Donc, c'est le but de ce podcast, parler du Bangladesh et qu'est-ce que c'est comme expérience de voyager au Bangladesh. Mais avant qu'on parle de plusieurs destinations, je voudrais te poser une question. Pourquoi le Bangladesh, c'est une destination si facile pour faire des photos de portraits, enfin des gens, de la people photography, comme tu dis?
Si vous connaissez l'Inde, si vous êtes familier avec l'Inde, et on en avait parlé la dernière fois dans l'épisode, c'est que l'Inde, c'est tellement facile pour faire des photos des gens. Les gens même, ils vous appellent dans la rue pour que vous veniez faire leurs photos. Les gens, ils sont curieux et ils voient des étrangers. Et au Bangladesh, c'est encore mieux parce qu'ils ne voient pas de touristes. Ils n'ont pas l'habitude de voir des touristes, des étrangers. Et il y a beaucoup de gens qui vont m'appeler dans la rue. Je marche avec mon appareil photo et qui vont me dire « prends ma photo, prends ma photo ». Et donc, bon, en général, on prend leurs photos pour leur faire plaisir et on n'essaie pas de, si on voit pas qu'il y a une lumière intéressante ou que la photo va pas être super, on fait une photo pour leur montrer. Mais souvent, ça peut nous amener à faire des photos des gens qui sont vachement sympas. Et du coup, ça facilite vraiment les choses. Et on se rend compte qu'on est vraiment à l'aise à faire des photos de personnes. Et vu que c'est un pays qui est ultra peuplé quand même, il y a quand même pas mal de monde au mètre carré, surtout dans les grandes villes, il se passe énormément de choses. Et donc, il se passe énormément de choses et on se sent à l'aise de faire des photos de tout ce qu'on voit parce qu'on sent que les gens, ils s'en foutent vraiment qu'on prenne des photos. Et du coup, ça rend les choses extrêmement faciles.
Tu as parlé de grosses villes et je pense que c'est parfait comme transition. Alors, généralement, tout le monde arrive à Dhaka. Dhaka, qui est la capitale, qui est une grosse ville du Bangladesh. Dhaka, ça ressemble à quoi quand on va voyager là-bas?
Bon, alors déjà, quand on arrive en avion au-dessus de l'aéroport de Dhaka, on voit des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de blocs en béton, des espèces d'immeubles à la pas chère, quoi, au Bangladesh. Une ville énorme, surpeuplée, avec sans aucune planification pour les constructions,
urbaine,
des
ouais.
Trafic de fou. De l'aéroport pour aller à l'hôtel où je reste en général, ça met en général une heure, mais ça m'est arrivé de passer 4 heures, juste parce que c'était sorti des bureaux, quoi. Et c'est une pollution incroyable. Dhaka a un dôme constant de pollution qui nous donne une super lumière toute la journée, en fait. Donc, même en plein milieu de la journée, quand la lumière est forte, on a une lumière quand même assez douce, ce qui est très intéressant pour les photos. Et bon, ce n'est pas une ville où je resterai plus de 2 semaines non-stop sans pouvoir cracher noir. C'est quand même très, très pollué. Mais alors, c'est une ville très grande. Il y a beaucoup de parties, des nouvelles parties de Dhaka. Je suis allé plusieurs fois voir des amis photographes dans d'autres parties de Dhaka qui sont un peu plus aisées, un peu plus relax, avec de la verdure. Mais en général, à Dhaka, moi, je reste dans le vieux Dhaka parce que c'est vraiment le vieux Dhaka qui est plus intéressant pour la photo. C'est encore plus le bordel. Et on est au bord de la rivière. Et la rivière, c'est vraiment un centre de vie partout au Bangladesh. C'est un pays quand même qui est très, très vert. Quand on sort des grandes villes, c'est un pays qui est très, très, très vert. Beaucoup de rivières, beaucoup de cours d'eau. Les gens voyagent énormément par la rivière. Les gens viennent, le Brahmapoutra descend ensuite dans le delta. Tous les gens qui habitent dans le sud viennent à Dhaka, pas par la route, mais par les bateaux. Il y a des ferries qui partent, des centaines de ferries qui partent et qui arrivent tous les jours sur cette rivière à Dhaka pour amener les gens. Et donc, pour la photo, c'est assez incroyable.
Donc, toi, tu attends, tu te balades. Est-ce que si tu devais comparer Dhaka avec une autre ville, est-ce que tu dirais que ça ressemble peut-être à, je ne sais pas, à Delhi, où tu as une partie Old Delhi qui est vraiment sublime, avec des vieux bâtiments, une atmosphère, et puis d'autres parties de la ville qui sont nouvelles, avec des grands buildings et peut-être des choses qu'on n'imagine pas trop du Bangladesh au final, qu'on imagine vraiment pauvre, mais je suppose des quartiers assez riches.
Je ne suis jamais allé à Delhi, en fait. Donc, je ne pourrais pas comparer. Okay. Pour moi, je suis la seule grande ville d'Inde dans laquelle je suis allé, c'est Kolkata. Et je pense que Kolkata, ça fait partie du Bengale. Je pense que c'est assez similaire. Les gens sont assez similaires. La bouffe est assez similaire. Ça ressemble, mais quand même avec une touche plus indienne. Kolkata a beaucoup plus de couleurs. C'est très colorful. Les gens s'habillent plus colorful. Le Bangladesh aussi, c'est un pays musulman. Et moi, je trouve que le Bangladesh, on est beaucoup mieux reçu qu'en Inde. J'ai jamais eu un seul problème au Bangladesh. J'ai voyagé, j'ai fait plusieurs phototours au Bangladesh avec des femmes qui étaient dans le tour. Jamais une seule fois, on a eu un problème. Les gens vraiment sont très respectueux. Ils ont cette politesse, ils ont cette distance également envers nous parce qu'ils sont timides ou parce que... Enfin, voilà. Et du coup, on a l'impression d'être mieux reçus. Ils sont moins turbulents. On arrive en Inde, c'est un peu plus pas violent, mais les gens sont plus déjà, ils vont être un peu plus agressifs, et surtout au niveau des femmes. Et pour moi, le Bangladesh, je me sens plus en sécurité au Bangladesh qu'en Inde.
C'est vrai que généralement, dans les pays musulmans, au final, quand tu regardes, on est vraiment très, très bien reçus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour le voyageur, pour l'accueil de l'étranger qui voyage, un vrai respect. Parce qu'en Iran, c'est pareil. En Indonésie, c'est pareil. Je me souviens à Yogyakarta sur Java, où un mec m'avait invité dans la mosquée pour regarder les gens prier. Ouais. J'avais trouvé ça assez, assez génial parce qu'on ne m'avait jamais invité, je ne sais pas, par exemple, dans une église. On ne m'avait jamais, jamais invité. Et à Dakar, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à visiter à Dakar du coup ? Toi, tu te focalises, je suppose, sur les gens, donc sur les scènes. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des grands monuments ou ce genre de choses ? Des trains ?
Il y a plusieurs parcs. Il y a deux, trois monuments. Il y a le bâtiment de l'Assemblée, je crois, qui a été construit par un architecte ultra connu qui est du Bangladesh, mais connu internationalement, qui a fait deux, trois bâtiments comme ça. Il y a des marchés qui sont très intéressants. Alors moi, visiter des monuments, visiter des mosquées, ce n'est pas vraiment mon truc. Je vais dans les marchés. Il y a des marchés de nuit, des marchés de légumes. Ils reçoivent, les camions arrivent la nuit. Très tôt le matin, comme je disais, la rivière, au lever du soleil, tous les bateaux qui arrivent, après toutes les petites rues, des rues minuscules dans le vieux Dakar avec des gens qui vendent des trucs sur les côtés, le petit stand qui vend du thé à droite, ça sent les épices, il y a le petit restaurant à gauche, on peut s'arrêter pour manger, les singes qui courent sur les ruelles, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est pour la photo, c'est non-stop, on peut marcher pendant 2 heures. Pour moi, le Bangladesh, c'est le pays dans lequel je prends le plus de photos à la journée. Je sors une journée, qu'on soit en photo tour ou pas, je reviens à l'hôtel le soir, j'ai minimum 800 photos sur ma carte mémoire. Et il n'y a aucun autre pays en Asie où je prends autant de photos parce que c'est non-stop. 5 mètres après, on va voir un truc, une lumière super, une femme habillée en jaune qui va sortir avec un mec assis qui est en train de se curer le nez, puis on essaie de les mettre ensemble. Enfin, il se passe toujours plein de trucs.
C'est vrai que quand on parle, on s'y croirait, surtout pour les épices. Je dois avouer que c'est un peu comme on l'imagine. Combien de temps, généralement, tu restes à Dakar avant de repartir vers la seconde destination ?
Mon tour fait 10 jours. Mais bon, Dakar, moi, j'y passe plus de temps. J'y passe toujours un peu de temps avant le tour et après le tour pour explorer des nouveaux endroits à Dakar et pour voir mes amis photographes. Dakar, 3-4 jours. 3-4 jours, c'est pas mal pour aller voir. Après, plus que ça, ça commence à être un peu difficile parce que ça nous est arrivé. Nous, en général, on essaye d'aller dans les endroits à la bonne heure de la journée, mais ça nous est déjà arrivé d'être coincé à l'ouest de Dakar. On était allé voir un endroit là où les bateaux déchargent toutes les briques, le charbon et le sable de la rivière. Et pour rentrer de cet endroit, c'était pas loin, c'était à 20 minutes de route de l'hôtel. On était resté coincé 3 heures dans un bouchon. À la fin, on avait dû sortir de la voiture et marcher parce que c'était complètement bloqué. La ville entière, ça n'avançait plus. C'est un bordel incroyable. Bon, du coup, on était un peu fatigué à la fin de la journée, mais on a fait pas mal de photos sur le chemin. Mais c'est pas un truc qu'on pourrait faire une semaine non-stop. On serait vraiment crevé après une semaine. Mais dès qu'on sort de Dakar, alors là, c'est la verdure, la campagne. C'est un super, super coup de souffle quand on sort de là.
D'ici quelques minutes, ce train desservira les gares de l'ouest, du nord-ouest et du nord-est du Bangladesh.
Eh ben justement, en parlant de verdure et de campagne, la seconde étape, c'est Rachaï.
Je te balance des transitions.
Exactement.
On
croirait que c'est préparé, honnêtement. Rachaï, c'est sur les bords du Gange. Alors moi, je ne connaissais pas. C'est à la frontière avec l'Inde et une ville que tu expliques qui est très propre. Tu peux nous parler de cette ville dans l'ouest du Bangladesh ?
Bon, la ville est très propre parce que c'est une green city du Bangladesh. Vous savez que le Bangladesh, les sacs plastiques sont interdits depuis plus d'une dizaine d'années, je pense. Donc, niveau environnement, ils se sont couverts de plastique avant tout le monde et ils ont commencé en fait à essayer de nettoyer leur pays, même si c'est tellement peuplé que c'est pas une mince affaire. Mais Rachaï, c'est vraiment une ville très plaisante. C'est une ville qui est assez grande, mais on a l'impression d'être dans un village un petit peu quand on se promène dans la ville. Niveau trafic, beaucoup de gens en vélo, beaucoup de petits tuk-tuk qui ne sont pas très bruyants. Et évidemment, la rivière Padma à côté. Et donc, se promener là, c'est vraiment… On sort de Dakar. Soit on peut prendre l'avion jusqu'à Rachaï, ça prend moins d'une heure. Soit il y a le train. Le train qui passe sur la rivière Brahmaputra. Là, c'est vraiment un super voyage à faire en train également pour rencontrer les gens. Les locaux, tu sais, Brice… T'as fait ça au Vietnam, aussi dans d'autres pays, le train pour la photo, c'est aussi super.
Est-ce que c'est comme les trains indiens et il y a du monde partout, il y a que des vendeurs ambulants, ça crie chai 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 tout le long ou water, pani water, pani water. Ça ressemble un peu au train en Inde, ce genre de choses ?
C'est un peu plus calme. C'est un peu plus calme que ça. C'est le train s'arrête, il y a des gens qui montent, ils passent un peu, ils demandent à droite à gauche et 5 minutes après, le train repart et ils redescendent et puis tout le long de voyage, il n'y a plus personne qui vient nous vendre des trucs. C'est pas C'est pas autant, parce que les gens qui sont dans ce train, c'est pas des gens qui font des petits trajets, c'est des gens qui partent de la ville et qui rentrent dans leur village. Et donc, ils ont tout ce qu'il faut avec eux, ils ont la bouffe, ils ont l'eau, ils ont toute la famille. Donc, en général, ils ont ce qu'il faut.
Du coup, les paysages, ça ressemble à quoi quand tu prends le train comme ça?
Alors, dans cette partie du Bangladesh, en fait, quand vous regardez le Bangladesh, quand vous partez de la mer, quasiment jusqu'au nord du Bangladesh, c'est plat. C'est plat, 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 plat. Il y a des montagnes au nord du Bangladesh, mais tout du sud, c'est vraiment un pays qui est très plat. Et c'est un pays qui est très bas, qui a un niveau très bas. C'est un des premiers pays, d'ailleurs, qui va se faire inonder avec la montée des eaux. Donc, ça va être encore plus le bordel là-bas et la pauvreté, ça ne va pas aider. Et c'est vert, c'est plat et c'est de la rizière, de la rizière, de la rizière, de la rizière. Très, très cultivé. Pas mal de palmiers, de buffles et des petits villages disséminés ici et là. Disséminés ici et là à travers les paysages.
Et du coup, il y a quoi à faire à Rachaï? Qu'est-ce que tu en penses pour toi? Tu fais quoi quand tu es là-bas?
Alors, Rachaï, on y reste 2 jours. On reste 2 jours à Rachaï parce qu'il y a des marchés qui sont super sympas dans la ville, des grands marchés. Et la nuit, ils ont aussi un marché la nuit. Et si vous regardez sur la carte, si vous allez sur Google Maps, que vous regardez Rachaï, que vous zoomez, au bord de la rivière, il y a une île énorme. Et ça, en fait, c'est une île qui est, et de l'autre côté de l'île, c'est l'Inde. Donc en fait, vous traversez l'île, vous êtes en Inde. Et cette île qui est sous l'eau la moitié de l'année, pendant l'hiver, elle sort de l'eau. Et en fin d'après-midi, tous les gens de la ville, les jeunes et les parents, leurs familles, se pointent sur l'île et se promènent. Et ça joue au cricket, et là, ça vend des trucs. C'est les gens, ils se font des petits barbecues, ils boivent un coup, les couples romantiques qui viennent regarder le coucher du soleil. C'est assez sympa pour la photo et les gens sont vraiment relax. Donc, c'est un plaisir. Vraiment, quand on sort de Dakar, on se promène sur cette île en coucher du soleil, on se croirait dans un autre pays.
Là, tu nous as parlé de Rachaï. J'avoue que ça a l'air sublime. Moi, j'avais aussi visité une île sur le Brahmapoutre. Donc, ce n'est pas le même fleuve, mais il y avait l'île de Majuli dans l'Assam, qui est une des plus grandes îles sur le Brahmapoutre. C'est vraiment un truc génial. Il y a un article du Monde qui en parle très bien. Donc, si vous aimez ce genre d'ambiance île sur des fleuves, n'hésitez surtout pas à aller regarder directement. Tapez Majuli, M-A-J-U-L-I. Une fois que tu as visité Rachaï, dans l'idée, généralement, tu commences à monter plus au nord, vers Bogra ou vers Dinajpur. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces régions qui restent encore dans l'ouest, le nord-ouest du Bangladesh, proche de la frontière avec l'Inde?
Après Rachaï, en général, on monte à Bogra. Avant, on conduisait à travers Nator et on arrivait à Bogra. Maintenant, on prend l'avion parce que l'aéroport est sympa et il y a plus de vols, plus d'un vol par jour maintenant. Et Bogra, c'est une assez grande ville et c'est assez marrant parce que le centre-ville est vraiment au milieu. Il y a toute une périphérie autour. En fait, vous voyez sur la carte, il y a une route qui entoure vraiment Bogra. Et alors, Bogra, c'est sympa. Il y a un super marché aux légumes, énorme, un truc énorme, énorme, énorme qu'on fait très tôt le matin. Il faut y être à 5h30, 6h le matin et on y reste jusqu'à 9-10h. C'est au nord de Bogra, un marché aux légumes avec des milliers de personnes qui amènent des légumes et des tas de légumes qui étalent tous les légumes par terre pour les vendre et ça braille et ça vend et ça, les animaux, etc. Il y a les poissons qui arrivent, des élevages et ça déverse des poissons. Une activité vraiment incroyable. Évidemment, pareil, c'est la campagne. Les gens sont encore plus sympas qu'à Dakar dans la ville. Vraiment des gens sympas, relax, qui veulent nous offrir du thé partout où on va et qui veulent se faire photographier. Et il y a un truc qui est très, très bien à faire aussi si vous êtes à Bogra. C'est de conduire pendant à peu près 2 heures à l'est et de rejoindre le Brahmapoutra. Et en général, moi, j'essaye d'y être en octobre, à la fin de la saison des pluies, après la saison des pluies. Et le Brahmapoutra est assez bas, en fait. Et si vous arrivez à être là au bon moment, nous, j'y suis allé 4-5 fois déjà et on a réussi que 2 fois à être là à un moment comme ça. Mais les gens voyagent beaucoup sur la rivière, comme je disais avant. Et la rivière est tellement basse que sur tout le long de la rivière, en fait, on peut marcher et traverser la rivière. Et les gens, ils marchent et ils poussent leurs bateaux. Et tous les bateaux arrivent et les gens sont tous debout en train de marcher dans la rivière et de pousser leurs bateaux. Et de temps en temps, la rivière devient un peu plus profonde et ils remontent tous. De temps en temps, la moitié du bateau est dehors et pousse, l'autre moitié est sur le bateau. Et pour des photos, c'est vraiment incroyable, surtout qu'on peut marcher autour d'eux, on peut contrôler notre composition en marchant autour de notre sujet. Mais c'est vraiment une ambiance et puis il n'y a rien autour. Vraiment, il n'y a rien, enfin, il n'y a rien. C'est des villages minuscules, des villages avec une petite dizaine de familles ici et là, des rizières partout et surtout cette rivière incroyable qui reflète les lumières est vraiment, vraiment un endroit sympa pour venir se relaxer. C'est d'ailleurs un endroit où le week-end, les gens de Bogra, les locaux, viennent se relaxer.
Quand tu dis les bateaux, ils ressemblent à quoi les bateaux? C'est des gros bateaux de toutes les couleurs, des petites barques? C'est quel type de bateau qu'on trouve quand c'est comme ça sur le brin Mapoutre?
Vu que la rivière n'est pas profonde, ils utilisent des... Ce seraient des grosses barques, je dirais des grosses barques. On pourrait y mettre 25 personnes dedans, mais qui sont assez étroites et avec un fond assez plat en fait. C'est un bateau que vous pourriez pousser dans l'eau vous tout seul.
D'accord. Et du coup, c'est coloré ou pas comme les camions? Parce que les camions, généralement, ils sont en Inde et au Bangladesh, je suppose, ils sont aussi très colorés.
Ouais, non. Ah oui, alors voilà. Ces bateaux, ils sont un petit peu chiants si vous voulez les comparer au Bangladesh. Et c'est vrai qu'au Bangladesh, c'est un peu la compétition entre les chauffeurs de camions d'avoir le plus beau camion. Et c'est vraiment génial. Il y a cet endroit à Dhaka où c'est un endroit où ils déchargent la plupart des briques qui arrivent des usines à briques de la campagne. Et il y a tous ces camions qui sont alignés l'un à côté de l'autre. Et les chauffeurs sont debout à côté de leur camion, en train d'être vraiment fiers quand on prend leur photo, parce qu'on a sélectionné leur camion qui est plus beau que le camion de leur voisin. Pour des histoires photos, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que c'est beau dans tout le pays, ces camions colorés.
Bon, on s'y croirait quand tu nous parles du Brahmapoutre à Bogra, j'avoue que ça donne envie d'y aller. Si on va un peu plus loin, on arrive à Dinajpur. Et Dinajpur, tu m'as dit que c'était le paradis de la brume. Alors, je n'ai pas très bien compris, tu pourrais nous expliquer ?
Dinajpur, moi j'y vais en hiver, il fait assez froid. Hein. En hiver, Dinajpur, on s'est déjà tapé des 10 degrés en octobre, novembre. Donc l'hiver, décembre, janvier, ça doit peler comme il faut. Et en fait, il fait froid, mais c'est très humide. Quand on se lève tôt le matin, on se lève vers 6 heures du mat et on sort de la ville et on part dans la campagne, en fait, dans la direction de Rangpur, qui est la ville avec l'aéroport plus à l'est. Et sur cette route, en fait, pendant 2-3 heures le matin, il y a une brume dense. Sur partout, sur les champs, dans les villages. Et donc, en fait, en se promenant dans les champs, dans les villages, et en attendant que le soleil se lève, et le soleil va passer à travers les arbres et dans cette brume et créer ces rayons de soleil avec des gens qui commencent leur travail dans les rizières ou arrivent, se réveillent le matin dans leur village et tu les vois, ils sortent, ils marchent sur la route, ils vont boire un thé dans le tea shop à côté, les gens qui préparent le marché et les gens qui vont travailler. Il y a beaucoup d'usines à briques aussi dans le coin.
Et du coup, sur place, tu vois quoi généralement? Tu dors directement à Dinajpur ou tu dors dans la grande île avec l'aéroport dont tu as parlé, Rangpur?
Non, on dort à Dinajpur en fait. On passe deux nuits à Dinajpur parce que Dinajpur, il y a beaucoup de campagnes très intéressantes. C'est là où ils font pousser énormément de légumes. Entre Bogra et Dinajpur, c'est vraiment là où les légumes poussent au Bangladesh. C'est rempli de champs de légumes qui partent dans les grandes villes, dans tout le Bangladesh. Et en fait, c'est très vert et des champs partout. Donc, si on part, je sais que quand on est à Dinajpur, si on part à l'ouest, on aura beaucoup de choux-fleurs et d'aubergines et de choses comme ça. Et quand on part à l'est, ça va être un autre type de légumes. Et il y a aussi pas mal d'élevage de poissons sur la rivière. Donc, on se retrouve, on roule sur la route et puis d'un coup, on voit 25 mecs qui sont jusqu'au nombril dans l'eau, en train de tirer des filets. Et du coup, on arrête la voiture et on sort et on dit bonjour. Et les mecs, ils sont là, ah, les étrangers, ils commencent à poser pour nous. Et à faire, bah bon, les photos, ils commencent à poser un peu trop. Mais d'un coup, il y a le boss qui revient, qui dit, ah, les mecs, remettez-vous au boulot et tout. Et ils se remettent au boulot. Et du coup, nous, on reste autour et on fait des photos. Et les mecs, ils tirent les filets, mais ils font les fiers parce qu'il y a les étrangers qui sont là en train de faire leurs photos. Enfin, c'est toujours dans une super ambiance de faire des photos au Bangladesh. Les gens sont vraiment sympas. Ça donne, c'est un plaisir. C'est un plaisir de faire des photos là-bas.
T'es à Dinajpur, tu passes deux jours à faire que des photos des gens. D'ailleurs, c'est assez drôle quand on parle, mais ça arrive souvent en Asie quand on fait des photos, de faire des photos des gens qui sont en train de bosser, même dans les rizières, au genre de truc. Et puis d'un coup, t'as le manager qui arrive, qui engueule tout le monde en mode faut bosser, qui est limite à deux doigts d'essayer de te dégager. Non, je pense que ça, t'as dû le vivre un paquet de fois.
Non, les gens, enfin là, surtout au Bangladesh, les gens, ils essaient pas de nous dégager du tout. Souvent, on rentre dans des usines à Dhaka, on trouve des petites usines.
Ouais.
Qui ont l'air, on se promène dans le vieux Dhaka et puis d'un coup il y a un énorme hangar sur notre gauche, c'est une usine et ils sont en train de, je sais pas, de faire des pièces de métal et puis il y a la lumière qui rentre par le toit, il y a des trous et puis il y a quelqu'un qui fait un feu, donc il y a de la fumée, donc nous on voit cette lumière, on se dit oh, on va rentrer faire des photos et puis on rentre et puis il y a un mec qui vient vers nous avec un peu un costard cravate et qui vient nous dire bonjour, on fait bon ben, on va se faire virer direct. Oh, c'est quoi votre pays? Oh, vous êtes français et toi t'es australien. Oh, c'est bienvenue au Bangladesh, tout le monde. Oh, bah allez-y, faites des photos. Moi, je m'appelle Mohamed, c'est mon usine, j'ai deux enfants. Est-ce que vous voulez venir boire le thé chez moi? Enfin, c'est tout, c'est assez affolant, quoi.
Ouais, l'inverse de ce qu'on penserait niveau cliché, le Bangladesh, super accueillant. Ok, ça a l'air vraiment beau. Je suppose que du coup, pour tes tours photos, après, tu changes entre guillemets d'environnement, parce que les gens, je pense qu'ils ne font pas de photos pendant 5-6 jours des légumes. Et ensuite, généralement, tu vas à Sylhet. Alors, Sylhet, c'est dans le nord-est du Bangladesh. Il y a notamment des plantations de thé. à Sri Mangol, je pense que je le dis mal. On est, pour ceux qui connaissent un peu l'Inde, on est juste en dessous du Meghalaya, donc l'Assam, Meghalaya, Nagaland, ce qu'on appelle souvent les Seven Sisters, les États en fait qui sont bloqués entre la Birmanie, la Chine et le Bangladesh. Bah là, on est juste en dessous. Et ça a l'air vraiment beau. J'ai vu pas mal de photos des chantés. Ça a l'air vraiment sublime. Tu peux nous parler de cette région aussi ? Comment tu y arrives ? Combien de temps tu passes ? Qu'est-ce qu'il y a à voir sur place ? Parce que cette région est assez connue quand tu cherches des informations sur le Bangladesh. Souvent, après avoir vu Dhaka et deux, trois autres destinations, on tombe rapidement sur les chantés et ça a l'air d'être une région assez, assez sublime.
Et ben en fait, un truc intéressant, c'est que Sylhet, c'est une des villes les plus connues au Bangladesh, en Angleterre. Parce qu'il y a énormément de Bangladeshis qui sont partis travailler en Angleterre. Une fois que les Anglais sont partis du Bangladesh après la colonisation, ils avaient un programme. Et beaucoup de gens de Sylhet, qui travaillaient surtout dans les cuisines, en fait, des cuisiniers, sont partis en Angleterre. Il y a énormément de... Il y a des vols directs entre Sylhet et Londres, en fait. Donc c'est assez intéressant. Et c'est une ville, du coup, qui est très connue. Pas mal de gens qui viennent d'Angleterre pour aller dans cette région. Il y a pas mal de resorts. De resort, de mountain resort, c'est des resorts dans la montagne, dans la forêt.
Parce que là, c'est plus montagneux, en fait. Là, du coup, c'est plus les longues plaines.
C'est un petit peu plus montagneux. C'est un petit peu plus montagneux, mais pas trop encore. Sylhet elle-même, c'est pas vraiment montagneux. On est encore au bord d'une grosse rivière, la rivière Sourma, d'ailleurs. Un supermarché aux poissons à Sylhet, mais les chantés sont pas là-bas. Il y a quelques chantés autour de Sylhet, mais vraiment les plus beaux chantés, c'est comme tu disais, à Sri Mangol. C'est au sud de Sylhet, il faut quand même conduire 3h, 3h30 pour y arriver de Sylhet. Et là, c'est des champs de thé, des champs de thé, mais vraiment, vraiment magnifiques, qui m'ont fait penser aux champs de thé au Sri Lanka. Donc un peu le même style, c'est sur des collines. C'est pas très pentu, mais ça glisse quand même quand on essaie de marcher dans les champs de thé tôt le matin avec la rosée. Mais vraiment incroyable, relax. Il y a des hôtels pour rester là-bas. Vous pouvez passer la nuit à Sri Mangal, faire des levées du soleil avec la brume, encore la brume. Si vous avez la brume dans les champs de thé, si vous avez la chance d'arriver à trouver des gens qui travaillent dans les champs, à ce moment-là, ça peut faire des super photos. Et il y a quelques villages, justement, de personnes, des villages entiers, en fait, qui sont des gens qui travaillent dans les champs de thé, qui s'occupent des champs de thé, qui ne sont pas des gens originaires d'ici, qui sont des gens, je crois, qui ont été amenés d'une région d'Inde, qui habitent, en fait, là-dedans, qui sont plus ou moins sous le contrôle des oligarques du thé du Bangladesh.
Ouais, ça arrive souvent en Birmanie, je ne savais pas que c'était aussi au Bangladesh. Ça arrivait surtout à l'époque britannique que les Britanniques déplacent des populations à l'intérieur de l'empire.
Sri Lanka également.
Ouais. Ouais, pour déplacer les gens, peut-être pour des personnes dans lesquelles ils avaient le plus confiance ou si ça fait besoin de main-d'œuvre. C'est pour ça que dans ces pays-là, généralement, parfois, vous avez des gens qui sont d'origine pakistanaise et vous vous demandez mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Étienne, c'est le moment que je te pose la question bête du podcast. Alors, j'espère qu'il n'y a pas eu d'autres questions bêtes avant. C'est quoi le plus beau si tu devais comparer Sri Mangal ou Elia pour les plantations de thé ? C'est quoi que tu préfères ? Donc, Elia au Sri Lanka, hein, dont on a parlé dans le dernier podcast.
Je vais te dire Elia. Sur le Bangladesh, les plantations de thé sont vraiment super, mais il faut rentrer dans une plantation de thé. Et une fois qu'on est... C'est des propriétés privées, en fait. Donc, on peut rentrer dedans. Il y a pas mal de plantations de thé. Les gens s'en foutent. C'est ouvert. Vous rentrez, vous faites des photos. Il n'y a même pas de sécurité. Mais il faut rentrer dans une plantation et puis on explore la plantation. Si on trouve rien, on trouve rien. Alors qu'au Sri Lanka, bah vous vous promenez sur la route et les plantations de thé sont à gauche, sont à droite. Donc vous ne trouvez rien, vous continuez à rouler sur la route et puis vous trouverez d'autres plantations de thé sur la gauche, sur la droite. Vous pourrez plus facilement trouver des choses, peut-être des gens qui travaillent dans les champs de thé au Sri Lanka. Et je pense qu'on est un peu plus libre de voyager au Sri Lanka tout en voyant les plantations de thé, alors qu'au Bangladesh, il faut aller là-bas juste pour voir les plantations de thé.
Attends, tu es en train de me dire qu'en gros, quand tu arrives dans la zone de Sri Mangol, tu dois en gros arrêter la voiture au début de la plantation, genre au portail à l'entrée, et ensuite aller te balader pour voir s'il y a des gens. Tu peux pas te balader.
Non, tu rentres la voiture, la voiture roule, tu vois un panneau, il y a un panneau machin estate, il y a des grands noms, hein, des noms qui bossent pour Lipton Tea, etc. Et on rentre, et puis des fois on voit des gens qui travaillent. Ça arrivait une fois qu'il y a des mecs de la sécurité qui nous aient dit non, vous pouvez pas faire des photos ici, parce qu'apparemment, l'année d'avant, il y avait des journalistes du Bangladesh qui étaient venus faire des photos, des reportages pour discuter du traitement des gens et des travailleurs dans les chantés. Et donc, les propriétaires de ces chantés avaient eu des problèmes parce qu'ils traitent mal leurs employés, ils les payent vraiment un minimum et ils essayent de ne pas les éduquer pour pas que les enfants partent à la ville, pour que les enfants restent ici en main d'œuvre. Et donc, il y a des journalistes qui avaient parlé de ça et du coup, maintenant, enfin, c'était il y a 2 ans, la sécurité était un petit peu plus tendue à ces endroits.
Ouais, ce qui peut arriver, on peut le comprendre. Si vous avez du mal avec les noms, donc les noms de villes que l'on vient de mentionner, n'hésitez pas à aller regarder directement sur le blog worldwildbreeze.net. Vous cliquez sur podcast, vous trouvez le numéro du podcast et vous aurez toutes les villes mentionnées directement sur l'article.
Prochain arrêt, le sud-est et le sud-ouest du Bangladesh.
Alors, on a parlé de plusieurs destinations, on a parlé de Dhaka, la capitale, on a parlé de quelques villes dans la campagne, Bogra, Rajshahi, ce genre de choses. Est-ce que toi, il y a des zones où tu n'as pas pu aller au Bangladesh et que tu rêves de visiter, par exemple? Parce que je suppose que tu n'es pas allé partout, tu n'as pas pu tout visiter.
Alors, on n'a pas parlé de Chittagong et Cox's Bazar. Chittagong, qui est la grande ville du sud, la deuxième grande ville du pays, qui est au sud, en fait, qui s'approche de la Birmanie. Et Cox's Bazar qui le promouvoit comme la plus grande plage du monde. Alors, il y a d'autres pays qui clament avoir la plus grande plage du monde, donc je ne sais pas. C'est un endroit où on allait en fait pendant le tour. Chittagong, c'est aussi une ville énorme, un bordel incroyable, une ville énorme. C'est là d'ailleurs où il y a toutes les usines à textile, vous savez que le Bangladesh fait la plupart des vêtements que vous portez encore. Et donc c'est une partie assez intéressante. Et quand vous partez à l'est de Chittagong, vous approchez vraiment de la Birmanie. Et là, vous avez des minorités qui habitent dans la montagne. Et on se croirait, c'est des gens qui sont plus blancs de peau et qui ressemblent un peu à des Birmans. Et c'est d'ailleurs un des seuls endroits où vous pouvez boire de l'alcool chez l'habitant. Ils font leur propre alcool de riz. Donc retour à un petit peu plus Asie du Sud-Est.
Ok, donc ça c'est dans le Sud-Est du Bangladesh, c'est ça?
Ça c'est dans le Sud-Est. Alors après, vous avez le Sundarban, qui est les marais qui sont partagés entre l'Inde et le Bangladesh, là où vous pouvez encore apercevoir, si vous avez du bol, le tigre du Bengale, qui apparemment est assez dur à voir quand même.
Les Sundarbans, j'y suis allé moi, mais depuis l'Inde. Donc en fait, les Sundarbans, c'est la plus grande mangrove du monde. Je crois que c'est UNESCO World Heritage, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a un tiers qui est côté indien et deux tiers côté Bangladesh. D'ailleurs, quand vous regardez sur Google Maps, on voit vraiment toutes ces ramifications. J'y étais allé passer 2 jours, je crois. J'avais dormi sur place. On n'avait pas vu le tigre. Hein. Le tigre, c'est difficile à voir.
C'est
mais
difficile,
ouais. Ouais, c'est là où il y a la plus grande concentration de tigres au monde, ou le plus de tigres, je ne sais plus. Il y a un truc en rapport avec le tigre. C'était très beau, très joli, très plat, évidemment, puisqu'on est dans un delta. Mais c'était assez joli à faire. Ça se fait sans problème depuis Calcutta. On a parlé beaucoup de Calcutta. C'est vrai, comme tu le mentionnes, de faire un peu ce mélange de tout ce qui est Bengale, en fait, puisque le Bangladesh et l'Inde, on a rajouté une frontière un peu comme on pouvait à l'époque. Mais c'est vrai que c'est aussi une zone qui pourrait être intéressante. J'avais vu quelques articles, notamment sur des marchés flottants dans ce delta, directement dans le sud-ouest du Bangladesh. Je suis obligé d'intervenir au montage puisque ce passage était quand même pas mal Jean-Michel à peu près. En fait, l'endroit, c'est un marché flottant qui se situe non loin de la ville de Barisal. Donc Barisal, c'est dans le delta du Gange. Ouais, bon, là, vous pourrez me dire, le Bangladesh, c'est dans le delta du Gange. Oui, c'est à peu près ça. Mais en gros, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller regarder directement sur YouTube. Vous tapez Barisal Floating Market et vous allez tomber sur une vidéo qui est absolument sublime d'un couple de voyageurs qui est allé jusque dans cet endroit. Donc, on peut voir les gros ferries qui se baladent sur les fleuves, sur le delta du Gange. On voit les petits bateaux, on voit le marché flottant. C'est vraiment sublime, extrêmement photogénique pour le lever de soleil. Et si vous avez un peu de mal, je vous mettrai le lien directement dans l'article sur le blog. Rappelez-vous juste que Barisal, ça s'écrit B-A-R-I-S. SAL et que la vidéo est en anglais. Voilà, on repart sur le podcast. Et si vous cherchez des informations, des récits de voyage sur le Bangladesh, notamment Cox's Bazar dont tu as parlé, il y a un blog qui s'appelle Tête de chat, qui a été fait il y a maintenant pas mal d'années, mais il avait beaucoup voyagé au Bangladesh. Généralement, maintenant, vous voyez Cox's Bazar principalement pour la crise des Rohingyas en Birmanie, hein, puisque la plupart des Rohingyas sont passés et sont donc à Cox's Bazar. Cox's Bazar qui est quasiment à la frontière avec la Birmanie.
Très bien, très très bien.
On a fait un petit peu d'histoire, un petit peu de géographie. Je pense qu'on a couvert pas mal du pays. On a parlé du nord-ouest, on a parlé du sud-ouest, on a parlé de Dakar, on a parlé des grandes villes. Il y a un point moi, que je veux mentionner, c'est lorsqu'on regarde tes photos du Bangladesh, c'est absolument sublime. Alors, n'hésitez pas à regarder, vous tapez Pics of Asia Bangladesh sur Google et vous arriverez sur la page du blog de Pics of Asia où vous aurez les rapports de voyage de Étienne qui sont absolument sublimes. Franchement, il y a des photos, ça fait rêver.
Eh ben, merci Brice.
Tu as des photos vraiment incroyables, notamment des usines à briques et des bateaux à Dhaka. Est-ce que c'est si simple que ça quand tu es au Bangladesh de faire des photos? Parce que quand on regarde tes photos, on se dit, mais c'est taré. Genre, c'est vraiment... Et
pousse-toi. C'est la photo comme la photo dans tous les pays. C'est une question de préparation, c'est une question d'aller dans des endroits et d'y retourner encore et encore. J'ai la chance d'être allé au Bangladesh pas mal de fois maintenant. Et c'est sûr que je n'ai pas eu toutes ces photos lors de mon premier voyage. Donc, c'est en allant et en re-allant à des endroits et un jour en ayant vraiment du bol de connaître un endroit et d'avoir à ce moment une super lumière et une super situation en face de nous qu'on arrive à avoir ces photos. Donc, je vous conseille de voyager et de voyager encore et encore. Et si vous trouvez des endroits super, d'y retourner, d'étudier l'endroit, d'y retourner et d'essayer d'y retourner jusqu'à ce que vous arriviez à capturer quelque chose de vraiment, vraiment qui vous plaît.
Et en plus, il est modeste. Malheureusement, il est déjà pris. Il est marié avec une Vietnamienne, mesdames, donc il n'est plus disponible.
Prochain arrêt, quelques questions pratiques sur le Bangladesh.
On a parlé de pas mal de destinations au Bangladesh et je pense qu'on ne pourra pas parler de 50 000 destinations, sinon on va quand même, je pense, perdre les gens. Ça va commencer à être moins intéressant. D'un point de vue pratique, puisque personne ne va au Bangladesh, le Bangladesh, c'est dangereux ou pas ?
Eh bien, à mon avis, ce n'est pas dangereux. Donc, j'ai jamais eu un seul problème au Bangladesh. On n'a jamais eu d'embrouille dans la rue, quelqu'un qui est venu nous emmerder, nous dire quoi que ce soit. On a été escorté par la police plus d'une fois. Mais vraiment, on va dans les tuk-tuk, les CNG. Donc les CNG, c'est les tuk-tuk au Bangladesh. Et à 5h du matin, on sort de notre... Ouais, voilà, ça c'était notre... Ouais, mon premier voyage au Bangladesh d'ailleurs, avec des copains. On sort de l'hôtel, 5h du matin, pour aller justement au bord de la rivière, pour voir les bateaux qui arrivent. Et on appelle des tuk-tuk, mais à 5h du matin, il n'y a pas vraiment de tuk-tuk dans la rue, donc on attend un petit peu. Et il y a un tuk-tuk qui s'arrête, on lui dit on va aller là-bas, combien, etc. Et puis d'un coup, il y a une voiture de flic qui s'arrête et qui nous disent vous allez où ? On leur dit bon, on va là-bas pour faire des photos. Ah ouais, ok, montez. Le mec, il traverse la route, il va choper un autre travailleur de tuk-tuk qui était de l'autre côté de la route, il lui dit de venir de notre côté. Tous les deux, ils nous prennent et la voiture de flic qui nous escorte jusqu'à là-bas. Mais vraiment, les mecs, genre en disant oh, bienvenue au Bangladesh, on vous escorte, quoi. Et il y avait la police gyrophare. Au début, on dit, mais attends, ils nous amènent au poste ou quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ils nous ont escortés jusqu'à là-bas. On arrive là-bas, ils nous disent, prenez des bonnes photos. Welcome to Bangladesh. Passez un bon moment. Passez un bon moment ici. Take care of tourists, tu vois. Il y a écrit ça un petit peu partout aussi, comme en Birmanie. Take care of tourists. Et en gros, c'est assez sympa. Il y a une fois, on était dans un village paumé, en plein milieu du pays. C'était un autre itinéraire que j'avais fait. C'était il y a 4 ans, je crois. On était dans une homestay, en plein milieu du pays. Un truc paumé, mais un endroit vraiment magnifique. Mais c'était la campagne profonde, vraiment. Et pour que l'on reste dans cette homestay, on devait avoir 2 flics avec nous. Et alors, on a demandé, mais pourquoi on a besoin d'avoir 2 flics avec nous ? Parce que c'est pour votre sécurité. Mais c'était n'importe quoi. On était dans la campagne, dans un village minuscule, avec des champs autour. Et à un moment, on était là pour... on n'est pas sorti trop faire des photos autour de ce village. C'était une pause, en fait, pour voyager. On a juste passé la nuit là. Et on avait fait une revue photo, donc on était devant le projecteur, on regardait nos photos. Et un des participants qui a voulu aller faire des photos, il a voulu sortir, donc il est sorti pour faire des photos, mais le flic lui a dit « je viens avec toi ». Et du coup, le mec, il n'a pas pu faire une seule photo. Dès qu'il voyait quelqu'un pour faire une photo, le flic disait « toi là, viens ici, l'étranger veut faire ta photo !» Et du coup, le gamin, il se barrait, il n'a pas pu faire une seule photo. Enfin, c'était assez, assez horrible pour lui, mais c'est un truc assez intéressant. Ils n'ont vraiment pas envie qu'il se passe quelque chose à un étranger au Bangladesh. Ils se disent que peut-être... Il y a des dangers pour nous au Bangladesh. C'est vrai qu'il s'est passé des choses dans le passé envers les étrangers au Bangladesh. Moi, vraiment, je ne me fais pas de soucis. D'ailleurs, si vous regardez les derniers attentats qui se sont passés au Bangladesh contre les étrangers, c'est vraiment des choses qui sont planifiées. Des étrangers, des expats qui habitent là-bas, qui vont tous les vendredis soirs dans le même bar. Alors que nous, on est dans un hôtel un jour, le lendemain, on part, on est dans un autre hôtel. On ne sait même pas où on sera le surlendemain. Je pense qu'on est assez tranquille de voyager de cette manière.
J'ai vu que dans les groupes, tu avais aussi pas mal de femmes,
oui.
Notamment même des femmes très blanches et très blondes, ce qui est généralement quelque chose d'assez ouais, recherché ouais. En Asie, puisque les gens deviennent dingues quand ils voient quelqu'un qui a la peau blanche, et ils deviennent encore plus dingues si la personne est blonde, hein, que ce
et
soit
les yeux bleus.
Un homme ou une femme. C'est pas dangereux non plus pour les femmes ?
Ah non, pas du tout. D'ailleurs je suis un petit peu jaloux quand on fait les photos tours en Birmanie avec les femmes, parce qu'elles s'approchent des
Birmanie
femmes.
En Birmanie ou au Bangladesh ?
Elles font des photos des femmes. Pardon ?
Au Bangladesh, tu voulais dire. Tu as dit Birmanie.
Au Bangladesh, pardon, j'ai dit Birmanie. Au Bangladesh, ouais, parce qu'elle peut faire des photos des femmes. Et quand on marche dans la rue, on voit qu'il y a des femmes vraiment incroyables, des yeux, des sourires incroyables, mais surtout les saris, les vêtements qu'elles portent, les couleurs, les bijoux. Et on voit des photos, mais les femmes sont très, très timides. On pourra faire des photos des femmes quand on est en petit comité, ou alors s'il n'y a pas grand monde autour, les femmes sont d'accord de se faire prendre en photo, mais s'il y a beaucoup de gens autour et qu'elles sont regardées, elles se sentent regardées par d'autres personnes, surtout par des hommes, elles vont être très timides, elles ne vont pas vouloir se faire photographier. Alors que les femmes qui sont dans le groupe, justement, elles se font appeler par des groupes de femmes dans les marchés et les groupes de femmes leur disent « Prends notre photo, prends notre photo. » Et du coup, elles se retrouvent avec des photos différentes, des photos vachement sympas. Et elles peuvent également prendre des photos des hommes qui s'en foutent d'ailleurs assez si c'est une femme qui fait leurs photos. Donc, très, très facile de voyager avec, pour des femmes au Bangladesh.
D'un point de vue budget, ça donne quoi le Bangladesh? C'est cher, c'est pas cher? Parce que généralement, on dit que ces pays, ce sont des pays pauvres, mais généralement, plus le pays est pauvre, plus voyager, ça coûte cher. Puisque les hôtels coûtent cher, les transports coûtent cher. Si on veut ça un peu organisé avec un guide ou un chauffeur, ça coûte aussi de l'argent. Le Bangladesh, ça donne quoi niveau budget?
Eh ben, le Bangladesh, on peut s'en sortir pour vraiment pas trop cher pour manger, surtout. Donc, vous pouvez manger vraiment si vous... Bon, évidemment, si vous cherchez que des restaurants de 5 étoiles parfaitement clean, ça va pas vous coûter... Ça va vous coûter un peu plus cher, même beaucoup plus cher. Mais moi, je ne suis jamais tombé malade. Birmanie, tous les ans, le groupe tombe malade. En Bangladesh, je n'ai jamais eu un groupe qui est tombé malade. Je ne suis jamais tombé malade. On mange vraiment dans la rue, on mange partout. On est dans les marchés à 6 heures du matin. Le seul petit boui-boui qui fait le breakfast, on est là, on mange, on boit du thé avec eux. Et en général, c'est safe. Donc, c'est vraiment pas cher. Les transports, le bus, ça ne coûte rien. L'avion, c'est assez raisonnable d'ailleurs. Par contre, les hôtels sont chers. Hein. Les hôtels, pour un hôtel que vous appelleriez un hôtel moyen, c'est 70$ au lieu d'être plutôt 30 ou 40$ comme ça serait dans le reste de l'Asie du Sud-Est. C'est un peu comme l'Inde. L'Inde aussi, c'est assez cher niveau hôtel, hein, je trouve.
Qu'est-ce que ça donne niveau nourriture? Ils mangent quoi là-bas?
Beaucoup de curry. Beaucoup de curry, beaucoup de dal. C'est un petit peu comme en Inde. Des petites variations, surtout quand vous allez dans l'est du pays, vers Sylhet. Ou vers la Birmanie, vous avez des variations un petit peu culturelles, différentes épices. Mais beaucoup de dal, beaucoup de pain, les pains plats qu'ils font avec des œufs, du riz, beaucoup de biryani. Beaucoup de biryani. Moi, c'est vraiment... c'est le Bengale. C'est le Bengale. Hein. Et vous voyez les hommes, les Bengalais à Kolkata ou alors les hommes Bangladesh, ils se portent bien. Hein. Ils ont la bonne bedaine. On mange bien gras. C'est pas facile de perdre du poids quand on voyage dans ces zones du monde.
Oui, en Inde, ils mangent beaucoup. Juste pour rappeler, le dal, en fait, c'est une espèce de soupe de lentilles. C'est super bon. Et le biryani, c'est des plats qui sont faits au four. En gros, vous imaginez du riz que vous cuisinez avec une viande, différentes épices et différents légumes. Et en fait, vous cuisinez ça dans
un... Et du beurre.
Et du beurre. Beaucoup de beurre. C'est très gras, c'est vrai. Ouais. Et vous mettez ça dans un four et en fait, ça cuit comme ça. Souvent, c'est ce que mangent d'ailleurs beaucoup les étrangers quand ils sont en Inde, parce que c'est à peu près safe, vu qu'ils cuisinent tout, vu que tout est cuit. Et c'est assez bon, et il y en a de toutes sortes. Donc, ouais. Ok, je savais pas qu'ils mangeaient des biryani au Bangladesh.
Ah ouais, ouais plein.
Tu dirais que la nourriture, c'est un point positif, ou c'est un point ouais. Où on fait gaffe comme en Inde ou
Non. C'est vraiment super, un plaisir. C'est pas comme la Birmanie, où quand on arrive en Birmanie, on se dit, ça va être super, mais bon, on va manger du riz frit pendant 10 jours. Au Bangladesh, on sait qu'on va se régaler, quoi. On a la variété, on peut manger plein de trucs. Moi, je mange plein de trucs dans la rue. Les gens qui sont assis sur le trottoir avec leurs petits stands qui vendent des trucs que je sais même pas.
Les samosas et tout.
Voilà, je vais acheter voilà tout ça, les samosas et les shawarma. Il y a plein de shawarma partout. Tu connais les shawarma?
C'est les espèces de kebab, non?
Ces espèces de rouleaux, voilà. Ils roulent ça avec du poulet dedans ou alors du bœuf et avec la sauce blanche et toutes les épices et les légumes, là. C'est super, ça.
On s'y croirait vraiment au Bangladesh. Ça me donnerait presque envie d'y aller. Je pense que ce sera la dernière question.
Ah, ça te ferait plaisir, ça te plairait, toi.
Ouais, j'espère qu'on pourra y aller quand le Covid se sera terminé. Dernière petite question. Combien de temps tu recommanderais à quelqu'un qui veut aller au Bangladesh? Alors, je pense que les gens n'iront pas 3 semaines au Bangladesh. Ça me paraît un peu ambitieux, mais pour quelqu'un qui chercherait un peu à découvrir rapidement le Bangladesh, tu dirais quoi? Une semaine, 10 jours, 2 semaines? Qu'est-ce qui est intéressant?
Si vous voulez voir tout ce dont on a parlé, c'est faisable en 10 jours. Nous, on fait ça en 10 jours. De Dhaka à Rachari, à Bogra, à Dinajpur et ensuite Sylhet. On cavale pas mal. Hein, c'est seulement 2-3 jours par destination. Mais ça nous laisse bien le temps de voir et vraiment de s'éclater, de voir pas mal de paysages, de faire plein de photos. Après, si vous pensez aller vers Chittagong et Cox's Bazar, ou si vous voulez aller vers Rangamati pour aller voir les minorités à côté de la Birmanie, il faudrait compter, je pense, 4, 5, 6 jours de plus quand même, parce qu'il faudrait prendre l'avion pour aller à Chittagong. Et si vous voulez aller voir le Sundarban, les parcs dans le sud, il faudrait 3, 4 jours en plus. Donc, vous pourriez voir tout le pays, je pense, en 3 semaines, mais ça ferait un long voyage.
Est-ce que tu recommandes, j'ai oublié de te poser cette question, mais tu recommanderais un guide de passer par une agence? Ce sera beaucoup plus simple, non, au Bangladesh? ou c'est quoi ton point de vue là-dessus?
Ouais, vous pourriez passer par une agence. Il y a pas mal d'agences, il y a pas mal de jeunes qui ont monté leur site, qui font agence de voyage, mais qui organisent des trips. Moi, je connais, je bosse avec le même mec depuis 6 ans maintenant, Koshik, un mec super sympa, qui m'organise tous mes trips, toute la logistique et qui est également notre guide. Lui, c'est son propre petit business. Après, il faut, je pense, c'est beaucoup de recommandations. Je l'ai recommandé à beaucoup de mes amis qui sont allés au Bangladesh. Et je pense que pour le Bangladesh, il y a tellement peu de choix quand on fait des recherches pour trouver des agences comme ça. Ce n'est pas vraiment évident et on ne sait pas si on peut vraiment faire confiance. Il vaudrait mieux aller ça, utiliser de la recommandation, connaître quelqu'un qui est allé, se faire recommander quelqu'un. Vous pouvez très bien aller au Bangladesh sans guide. Moi, la première fois que je suis allé au Bangladesh, je suis arrivé à l'aéroport. J'avais un hôtel de réservé pour le soir même pour avoir mon visa. J'étais obligé et je ne savais pas où je serais le lendemain et personne ne m'a rien demandé. Donc, vous pouvez vraiment voyager tout seul.
T'es expérimenté aussi dans les voyages. Faites quand même attention. Si
mais les gens sont sympas. Les gens ils t'arrêtent dans la rue toutes les heures. Il y a un mec qui va venir te parler. Il y a un avocat en train de fumer sa clope en bas du bâtiment là où il travaille. Il y a un mec qui a étudié à Londres qui parle un anglais parfait qui va me voir, qui va me faire t'as besoin d'aide? Tu veux que je te booke un billet d'avion? Ça va? Tu vas où demain? Ah, tiens, ma grand-mère, elle habite là-bas. Si tu vas là-bas, viens manger chez elle, etc.
Je pense qu'on est vraiment à l'opposé de tous les clichés qu'on a du Bangladesh. Je dois avouer que moi, avant de faire ce podcast, je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait au Bangladesh. Je connaissais les plantations de thé, je connaissais un peu les Sundarbans, ce genre de trucs, Dhaka, à quoi ça ressemblait, Cox's Bazar, mais je ne connaissais pas du tout les zones dont tu as parlé dans le Nord-Ouest. Et notamment quand tu parlais de Bogra et des bateaux sur le Brahmapoutre, on s'y croyait vraiment. Donc, j'espère que ça aura donné envie à pas mal de voyageurs d'aller au Bangladesh. N'hésitez pas à regarder sur le site.
Je recommande vivement.
N'hésitez pas à aller sur le site de Peaks of Asia. Donc, j'en ai déjà parlé, mais vous avez une catégorie sur le Bangladesh. Étienne y organise aussi des tours photos. Donc, pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les gens qui sont experts professionnels. On a déjà parlé de son travail de photographe en Asie dans un des précédents podcasts. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Et je te remercie, Étienne, vraiment d'avoir participé à ce podcast parce que c'était super intéressant.
Merci à toi, Brice. Merci à toi. Au plaisir.
Terminus du train, conclusion.
Étienne parle beaucoup des gens, parle beaucoup de ses rencontres et parle très peu des monuments. J'espère que vous en êtes rendu compte. On a commencé le podcast en mode Wikipédia et Étienne l'a continué de façon plus terre à terre pour parler des Bangladais et de leur vie. D'ailleurs, vous l'excuserez pour les quelques mélanges entre français et anglais, mais il parle beaucoup plus anglais que français désormais et vous nous excuserez tous les deux parce qu'on a bafouillé quelques fois Bangladesh et Bangladais, mais on disait 10 fois par minute, donc c'était un peu difficile à prononcer. En préparant le podcast sur le Bangladesh, j'ai découvert plein d'endroits qui avaient l'air vraiment sublimes, notamment des vieilles villes d'artisans, des anciens comptoirs de commerce ou des temples au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça donnait vraiment envie de visiter, ça a l'air sublime et c'était très différent de l'image que j'en avais. Vous trouverez pas mal de blogs en français avec des voyageurs qui sont déjà allés. J'ai mentionné Tête de Chat pendant le podcast, je vous invite à lire son blog qui est absolument phénoménal. En fait, c'est tenu par Sandro qui a voyagé dans pas mal de pays, qui vivait à l'étranger. C'est un mec passionnant et franchement inspirant. Il y a aussi le blog One Chai et d'autres blogs que vous trouverez facilement sur Google. Attention, attention, attention. Étienne est un voyageur très expérimenté qui a gambadé dans pas mal de pays. La situation au Bangladesh étant ce qu'elle est, il est impératif de se renseigner avant d'y aller. Bien qu'on ait tendance à toujours dire c'est bon, il n'y a pas de souci, moi j'irai jamais en famille au Bangladesh, hein, faut être honnête, et il y a peu de chances que j'aille dans les environs de Cox's Bazar en ce moment. Il faut être réaliste. D'ailleurs, il y a un Français qui avait disparu il y a quelques années dans le sud du Bangladesh sans qu'on sache réellement ce qui lui était arrivé. Regardez donc impérativement le site du ministère des Affaires étrangères et n'hésitez pas à demander sur des groupes d'expatriés sur Facebook. Vous tapez Bangladesh Expat par exemple, vous trouverez des groupes. On n'arrive pas au Bangladesh par hasard et il faut préparer son voyage. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, j'espère que vous avez appris pas mal de trucs sur le Bangladesh. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. À la prochaine pleine lune, c'est bien ça, dans 29 jours. Merci beaucoup, bye bye.